Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 17 avril. On commence sans tarder par les questions, le mystère qui entoure ce groupe DDPF, le groupe de défense des droits des prisonniers français qui fait beaucoup parler de bruit ces derniers jours. Serait-ce des trafiquants de drogue, un groupuscule anarchiste ou d'ultra-gauche, selon qui dit quoi, un groupement de détenus, ou voire même des possibles pistes, ou en tout cas des gens qui parlent d'ingérence étrangère, on parle de Poutine là derrière là. Bon, pour l'heure, en tout cas, il n'y a pas de piste privilégiée, c'est ce que déclarait ce matin le procureur antiterroriste Olivier Christen. En tout cas, il y a encore eu des actions coordonnées contre plusieurs établissements pénitentiaires en France, hein. Des véhicules brûlés hier sur un parking de la prison de Tarascon. Le hall d'immeuble d'une surveillante donc du prison a été incendié en Seine-et-Marne, avec donc les tags DDPF à chaque fois. Ces nouvelles dégradations ont donc été incluses dans la saisine du parquet national antiterroriste, la SDAT, qui enquête maintenant sur l'ensemble des faits qui sont survenus depuis ce dimanche. On rappelle que ce week-end, des véhicules avaient été incendiés devant divers lieux pénitentiaires, dont l'ENAP, l'école de l'administration pénitentiaire qui est à Agen. Des tirs à l'arme automatique à la Kalachnikov avaient même visé à la porte de la prison de Toulon. Lors de toutes ces actions recensées, donc, les inscriptions DDPF pour défense des droits des prisonniers français ont été retrouvées. Ce groupe inconnu des services de renseignement français a été créé il y a quelques jours sur la messagerie chénier, qu'est-ce que j'ai un bug, pardon, Telegram, voilà, sur la messagerie Telegram, et ce groupe de discussion donc chiffré totalisait jusqu'à mardi près d'un millier d'abonnés, avec donc des messages au ton menaçant publiés à partir du samedi 12 avril. Ce groupe DDPF sur Telegram n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas il appelait donc sur cette boucle de discussion à cibler les prisons et les agents pénitentiaires dans le cadre d'actions violentes. Dans la nuit de dimanche à lundi, je vous le disais, plusieurs véhicules d'agents ont été incendiés aussi à Marseille ou à Luynes, Aix, dans les Bouches-du-Rhône, devant les prisons, donc les véhicules des gardiens. Le lendemain, une rafale de Kalachnikov tirée devant la façade d'entrée à Toulon-la-Farlette, c'est le nom de la prison, sans faire de blessés. Ce groupe explique qu'il va se déployer dans toute la France et il est donc très virulent à l'encontre des surveillants de prison avec des menaces très claires, parfois des menaces de mort et même nominatives. Dans le message en forme de revendication donc, qui circulait sur cette boucle Telegram, les administrateurs de la chaîne ont fustigé le comportement humiliant des surveillants à l'égard des détenus. Et mardi soir, ils ont diffusé un nouveau message disant « Sachez que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. » Parmi des revendications affichées donc, par rapport aux conditions de détention, le recours aux fouilles des détenus qui sont jugées humiliantes et la surpopulation carcérale. Au 1er mars de cette année, il y avait 82 152 personnes détenues dans les prisons françaises pour un total de 62 539 places, ce qui fait un taux d'occupation de 131%. Des slogans sont mis en avant sur un photomontage qui était diffusé donc sur cette chaîne. On y voit Gérald Darmanin derrière des barreaux avec écrit « Justice pour les détenus » et « Non au projet Darmanin ». Et il fait donc là explicitement référence à la volonté de Gérald Darmanin de durcir le régime carcéral des narcotrafiquants. Les plus dangereux de ces narcotrafiquants seront regroupés à partir de cet été dans la future prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, donc dans le Pas-de-Calais. C'est ce qui fait penser aux enquêteurs que ces attaques proviennent certainement de ce que M. Retailleau appelle des narco-racailles. C'est le mot qu'il a utilisé ce matin. Du côté de l'application Telegram, donc je vous le disais, elle a réagi suite à l'affaire en supprimant tout l'ensemble des messages. et en affirmant collaborer avec la sous-direction de l'antiterrorisme pour tenter d'identifier les auteurs des messages. À savoir qu'un membre supposé donc de cette boucle Telegram a été interpellé hier en Essonne. C'était un détenu en semi-liberté qui a donc été arrêté quand il rentrait mercredi matin dans sa prison. Et arrêté parce qu'au moment de la fouille, eh bien, les surveillants ont regardé son portable et ont vu qu'il figurait sur la boucle en lien. Donc il est suspecté d'appartenir à la chaîne des DPF, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il est impliqué dans ces attaques.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
À Paris, une centaine de personnes se sont allongées sur les marches de l'Opéra Bastille pour protester contre la mort de près de 200 journalistes palestiniens en 18 mois et aussi pour protester contre le blackout médiatique imposé par l'État d'Israël. En 30 ans de carrière, je n'ai absolument jamais vu ça, y compris dans les archives. De nombreuses organisations de journalistes en France donc dénonçaient une hécatombe d'une magnitude jamais vue pour leurs confrères travaillant à Gaza, avec près de 200 morts en 18 mois. En plus d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde et dans Libération, ils étaient donc plus d'une centaine à répondre à l'appel à Paris ce mercredi 16 avril pour un happening sur les marches de l'Opéra Bastille, un die-in donc, où ils se sont tous allongés en solidarité avec leurs collègues morts ou en danger dans la bande de Gaza. L'armée israélienne cherche à imposer un blackout médiatique sur Gaza, à réduire au silence, autant que possible, les témoins des crimes de guerre commis par ses troupes, critiquent ces organisations, parmi lesquelles des syndicats de journalistes, hein, le SNJ, la CGT et la CFDT, Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes et également une quarantaine de sociétés de journalistes ou de rédactions de divers médias. Une étude de l'université américaine Brown pointe en effet que la guerre à Gaza, depuis le 7 octobre 2023, a tué plus de journalistes que la guerre de sécession, les deux guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, y compris le Cambodge et le Laos, les guerres en Yougoslavie des années 90 et 2000 et la guerre d'Afghanistan après le 11 septembre, tout ça mis ensemble. Il n'y a pas eu autant de journalistes morts que dans toutes les guerres que je viens de citer. La guerre à Gaza, vous le savez, a été déclenchée par l'attaque sans précédent perpétrée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre le sud d'Israël, une attaque qui a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils. Et sur 251 personnes en Israël alors enlevées, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 mortes selon l'armée. Du côté de la Palestine, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce dimanche 13 avril qu'au moins 1574 Palestiniens avaient été tués depuis la reprise des opérations militaires israéliennes ce 18 mars, ce qui porte à 50 944, donc presque 51 000, le nombre de morts à Gaza depuis le début, il y a 18 mois, de cette riposte israélienne. Un exemple récent par rapport au sort des journalistes, un exemple tragique, on l'a appris donc hier, la photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, qui est l'héroïne d'un documentaire qui a été sélectionné à Cannes en mai prochain, a été tuée donc hier dans le bombardement de sa maison familiale à Gaza. Fatima Hassouna, c'est une photojournaliste gazaoui qui documentait la guerre au quotidien et elle en est donc devenue une des victimes après le bombardement ciblé par l'armée israélienne de sa maison de famille, au cours de laquelle 10 personnes ont trouvé la mort. Pour l'heure, du côté d'Israël, l'armée n'a pas souhaité répondre aux questions concernant ce bombardement qui se situait dans le quartier d'Al-Toufa, dans le nord-est de Gaza. Et triste écho de l'actualité, donc, l'association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, donc l'ACID, qui est basée à Cannes, venait d'annoncer ce mardi 15 avril la sélection justement pour le festival du documentaire de Sepide Farsi, documentaire qui s'appelle « Put your soul on your hand and walk »,« Mets ton âme dans ta main et marche ». Et ce film est le fruit d'un échange d'un an par vidéo interposée entre la cinéaste iranienne exilée, donc Sepide Farsi, et la photojournaliste gazaoui Fatima Hassouna. Elle discutait et le festival de Cannes pourrait malheureusement devenir une caisse de résonance tragique pour ce documentaire « Put your soul on your hand and walk ». Mais malheureusement, la principale actrice ne verra pas le film achevé. Et pour couronner le tout, donc, on apprenait qu'elle devait se marier d'ici quelques jours.
Oh, les rebelles, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Au Brésil, le gouvernement interdit les traitements hormonaux pour les mineurs. C'est le Conseil fédéral de médecine, le CFM, qui a relevé de l'âge de 16 ans à celui de 18, l'âge minimum pour qu'une personne transgenre puissent suivre un traitement donc hormonal. Ce sont des nouvelles règles qui ont été publiées hier. Cette autorité sanitaire a en outre relevé de 18 à 21 ans l'âge minimum pour ce qui est des chirurgies de réassignation sexuelle, donc les opérations pour faire une transition, des chirurgies qui impliquent un effet potentiellement stérilisant. C'est ainsi que l'a justifié le Conseil fédéral de médecine. Lors d'une conférence de presse, Raphaël Camara, le membre du CFM, a justifié ce durcissement des règles en expliquant que le Conseil s'était basé sur des études qui montraient une augmentation des cas de personnes transgenres éprouvant des regrets après leur transition. Plusieurs projets de loi qui visent à instaurer des peines de prison pour les médecins qui fourniraient des traitements hormonaux à des mineurs sont par ailleurs en cours d'analyse au Parlement brésilien, qui est, vous l'aurez compris, à large majorité conservatrice. On revient en France et on s'intéresse au sort des collectivités locales et notamment des départements avec cette alerte pour le département de la Charente qui est menacé d'être mise sous tutelle par l'État. Alors la mise sous tutelle d'une collectivité territoriale, c'est plus souvent une menace qu'un réel effet. Ce sont rares ces collectivités qui se sont retrouvées gérées dans ce cas-là par le préfet. Et en général, les élus locaux mettent tout en œuvre pour éviter de perdre leur autonomie de gestion. Eh bien à Angoulême, donc en Charente, Conseil départemental, le coup près est tombé. Faute d'avoir adopté le budget avant sa date butoir qui était ce 15 avril, le département se retrouve donc depuis hier placé sous tutelle. En cause, donc, le budget qui, fin mars, a été retoqué lors d'un premier vote. Le budget est d'un montant de 615 millions d'euros. Et ce retoquage a été fait du fait de l'abstention du vote d'un groupe de 6 élus de la majorité de gauche qui ont fait scission. Suite à des mois de dissensions politiques au sein de l'Assemblée de ce département de 350 000 habitants. En 2017, le Lot-et-Garonne, lui, avait de manière un peu similaire, mais échappé de peu à la tutelle grâce à l'adoption tardive d'un budget amendé. Et la Charente est donc le premier département à se retrouver dans cette situation. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'elle est sous tutelle, cette collectivité, ça peut être une commune, un département ou même une région, eh bien, elle perd la gestion de son budget temporairement au profit donc du préfet. Ce représentant de l'État va prendre les décisions financières à sa place, par exemple le niveau des impôts, la répartition des dépenses, les priorités budgétaires. Cette tutelle va débuter quand le préfet saisit la Chambre régionale des comptes et cette saisine ne peut se faire que dans 4 cas, quand la municipalité, le département ou la région n'est pas parvenu à faire voter le budget, ce qui est par exemple le cas de la Charente, ou alors si elle a voté un budget en déséquilibre, si elle refuse d'y inscrire une dépense qui est obligatoire, ou enfin si son compte administratif est rejeté ou fortement déficitaire. Suite à cette décision, le CRC a alors un mois pour formuler un projet de budget ou proposer des mesures de redressement, et pendant ce temps, toutes les dépenses de fonctionnement de l'année précédente sont prolongées. Le projet de budget est ensuite transmis au préfet qui va lui disposer de 20 jours pour le faire exécuter, soit en l'état tel quel, ou alors avec des modifications qui seraient justifiées. Très souvent, le budget reconduit va correspondre à celui de l'année précédente. Enfin, si la collectivité accepte le budget ou les recommandations de redressement de la Chambre régionale des comptes, elle peut donc finalement conserver la gestion de ses finances. Sinon, eh bien, elle perd la maîtrise des finances et c'est le CRC qui va confier au préfet le soin d'appliquer les recommandations et d'exécuter donc lui-même ce budget. Voilà, pas mal d'explications techniques fournies par nos camarades du média Alter Midi qui se sont penchés sur cette question, puisque vous l'aurez compris en filigrane, ça concerne la Charente, mais vu les grosses problématiques budgétaires que rencontrent de très nombreuses collectivités, c'est une situation qu'il vaut mieux savoir, en tout cas, analyser pour ne pas y faire face. Et on apprenait aussi que le conseil départemental de la Charente avait obtenu donc hier un sursis de la préfecture et ils étaient autorisés à reconvoquer une séance pour voter le texte et donc peut-être échapper à cette sentence. Autre problème, autre crise budgétaire aussi, c'est du côté du département du Rhône. Où ça fait pas mal de bruit, c'est le président Les Républicains donc, de ce département, qui s'appelle Christophe Guillotot, qui a décidé de couper des subventions allouées à 3 associations environnementales. Une petite citation de ce qu'il a dit, « On ne peut pas prendre l'argent du département et aller contre les projets du département ». Normalement, si. En tout cas, dans sa ligne de mire, c'était France Nature Environnement, FNE Rhône, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, et Anthropologia, qui est une association naturaliste de protection des insectes. Le 4 avril dernier, donc, en conseil départemental du Rhône, le président Christophe Guillotot fait voter un amendement qui supprime les 80 000 euros de subventions totales donc, qui vont aider ces trois associations à mener leurs activités de protection de la nature et de l'environnement. Alors, il reproche à ces trois associations précisément d'avoir co-signé un courrier qui critiquait un projet donc, du département, un projet de port fluvial. C'est le projet du Bordelan à Anse, c'est la commune de Anse. On est en bord de la Saône au nord de Lyon. Dans ce courrier que le journal Basta a pu consulter, les signataires soulignent que le projet donc, de port fluvial, qui bénéficie d'un investissement public conséquent, hein, puisqu'il est subventionné à presque 40 millions d'euros, va impacter lourdement une zone humide. Il précise que ça va artificialiser une surface équivalente à 30 terrains de football, alors même que les zones humides essentielles pour la biodiversité sont aujourd'hui les milieux les plus menacés. Le courrier, d'ailleurs, loin d'être virulent, pose des questions légitimes sur l'utilité économique de ce projet au regard des autres sites et projets déjà existants à proximité. Il pose aussi des questions sur ses conséquences environnementales en l'absence de concertation réelle. Ça, c'est ce que disent les trois associations dans un communiqué commun suite à donc, cette nouvelle de coupe de leurs subventions. En réponse, donc, la suppression des subventions s'apparente pour elle à une sanction politique destinée à faire taire toute voix dissidente. Petit florilège quand même de ce qui s'est dit lors de la séance du 4 avril. Hein. Le président est donc revenu sur ce courrier pendant la séance du conseil départemental. Il a dit « On nous donne des leçons ». On nous dit dans cette lettre de réduire les dépenses. Eh ben, on va réduire les dépenses, ça va être vite fait. Je propose un amendement qui consiste à supprimer les subventions à ces dites associations. C'est 80 000 euros qu'on va leur donner pour qu'après ils soient contre nous. Ça, je ne l'accepte plus. Il dit aussi « Moi, j'en ai assez de ces associations de danseurs aux pieds nus qui viennent nous expliquer ce que nous, élus, on doit faire sur nos territoires. J'ai un défaut, c'est que je vieillis et je ne supporte plus ça. » Et il conclut, « Moi, je ne suis pas prêt à ce que mes enfants mangent des graines tous les jours, à faire de la bicyclette tous les jours. » Seul un élu sans étiquette s'est abstenu pour ce vote lors de la proposition de l'amendement, à savoir que dans ce département, la gauche est totalement divisée, a été totalement divisée lors des élections et elle donc n'a même pas d'élu au conseil départemental. Pour réagir, France Nature Environnement Rhône vient de lancer une cagnotte, hein, puisque cette coupe subite de subventions met en péril la pérennité de sa structure localement. Pour ces assos environnementalistes, ces coupes budgétaires compromettent gravement des actions concrètes en faveur de la connaissance et de la protection d'espaces naturels sensibles dont le département lui-même a besoin. En voulant nous sanctionner pour avoir joué notre rôle de défenseur de nos biens communs, c'est en réalité la biodiversité de toutes les citoyennes que le conseil départemental punit. Ce sont les mots de Sébastien Tessier, le directeur de la LPO, pour son antenne locale. Donc. Voilà, supprimer des financements pour sanctionner des critiques est une politique déjà initiée par l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bien nommé Laurent Wauquiez, qui avait supprimé en 2023 la subvention au théâtre Nouvelle Génération de Lyon, là aussi suite à des propos de son directeur sur la politique culturelle régionale.
C'était vraiment très intéressant.
On reste en France avec la question des services publics dans les zones rurales et plutôt reculées, à savoir celles du Massif central qui sont en grosse crise ferroviaire. C'est pourquoi les trains de la colère, c'est le nom de cette mobilisation, a eu lieu qui faisait converger donc vers Paris élus et usagers de ces lignes de train du centre de la France. Et avec à travers cette manifestation train de la colère, le Massif central souhaiterait sortir de ce qu'il appelle l'enfer ferroviaire. Il déplore en effet un service très dégradé. Quelques exemples dans cet article qui vient, je crois, des colonnes de Reporters. Voilà. Mediapart. Le centre de la France, le sud-ouest et le Massif central ne sont pas des territoires de seconde zone. Ce sont les mots de Andréa Brouille, la vice-présidente socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils étaient 400 avec elle, selon les organisateurs, ce 15 avril, pour cette mobilisation qui alertait donc sur l'état alarmant des lignes de train Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et également la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Ils demandent à l'État des engagements fermes pour des investissements sur ces infrastructures. La journée avait commencé dans une ambiance plutôt joyeuse. Hein. Ils sont partis de Clermont-Ferrand, une centaine d'élus, mais aussi des acteurs économiques, culturels, touristiques ou sportifs et des citoyens engagés, représentants d'associations ou journalistes. Donc toutes ces personnes ont pris place dans les wagons du train pour rejoindre Paris. À bord, en plus des usagers habituels, donc deux nouveaux voyageurs ont grossi les rangs du convoi à Riom-Châtel-Guyon, Vichy, Moulins et Nevers. Et même chose donc pour la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, avec des gens qui se sont joints à la mobilisation à Gourdon, Souillac, Brive, Userche, Limoges, Argenton et Châteauroux. Fin d'après-midi, donc ils sont tous sont allés à Paris pour rejoindre le ministère des Transports, où justement la sortie en fin d'après-midi s'est faite sous une humeur beaucoup moins joyeuse. Hein. Tous les élus de ces deux lignes ont quitté furieux la réunion avec le ministre des Transports. Déjà parce qu'ils avaient découvert qu'un communiqué de presse sans annonce nouvelle avait été envoyé par le ministère avant même le début de la rencontre. Et pire encore, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, n'était pas là. Voilà, c'est donc un camouflet perçu comme un symbole du mépris de l'État pour ses territoires, pour ses élus mobilisés donc pour leurs lignes ferroviaires. Ces lignes comptent parmi les seules où on peut légitimement se demander quand on part si on arrivera bien à destination sans encombre, explique par exemple Christine Pires-Beaune, qui est députée socialiste dans le Puy-de-Dôme, alors que se tenait donc quelques heures plus tôt le comité d'alerte des finances à Bercy. Il ne faudrait pas que le contexte budgétaire soit propice à des reculs sur ce qui a été annoncé la semaine dernière, notamment l'amélioration des dédommagements en cas de retard et de la maintenance des locomotives. Sans des investissements vitaux, la création d'une desserte fiable et ponctuelle ainsi qu'une réduction significative du temps de parcours ne seront pas possibles, explique encore cet élu. L'État et les SNCF ont promis l'an dernier 890 millions d'euros pour les infrastructures et 350 millions d'euros pour le matériel roulant. Ces lignes desservent à elles deux près de 10 millions d'habitants et elles ne bénéficient pas des mêmes attentions de la part de l'État en matière d'aménagement du territoire ou du niveau de service que le reste des régions françaises. Alors pourtant que ces lignes de train sont justement définies comme lignes structurantes des trains d'équilibre du territoire, c'est une appellation dont l'État est l'autorité organisatrice. Sont cités évidemment des retards récurrents de plusieurs heures, des locomotives vieilles de bientôt 50 ans, des voitures, des fauteuils, des moquettes usées et un sous-investissement chronique depuis des décennies sur ce réseau. Ces deux lignes se distinguent par de tristes records. Par exemple, sur la ligne Clermont-Nevers-Paris, les retards de 2024 représentaient en tout 26 jours, 5 heures et 13 minutes, d'après la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait le calcul. Un médecin urgentiste qui était présent à Paris pour cette mobilisation explique que le temps de parcours entre Clermont-Ferrand et Paris se rallonge. Avant, il fallait 2h58, donc en 2008, et on est passé à 3h15 en 2025. Ce médecin reconnaît d'ailleurs s'être parfois tourné vers des formations plutôt à Lyon qu'à Paris pour pouvoir éviter les désagréments du trajet. Vous l'aurez compris, des acteurs très variés sont concernés dans ce dossier. Un consultant en accessibilité est présent aussi, il s'appelle Gilles Mélan. Il est handicapé de naissance avec des membres incomplets et il donne quelques commentaires sur la ligne Clermont-Paris qu'il utilise. Aucune amélioration depuis 2016, voire une nette dégradation. Il m'arrive, dit-il, de passer plusieurs heures sans accès aux toilettes à cause de l'état du matériel. D'ailleurs, le même jour de cette mobilisation, deux classes de CM2 de Chamalières dans le Puy-de-Dôme, qui étaient en voyage scolaire dans le train, ont dû s'arranger avec des toilettes bouchées dans leur wagon. Autant dire que les 3h30 de trajet ont semblé longues aux maîtresses. Depuis plus d'une décennie, des collectifs citoyens ou des associations comme Urgence POLT, c'est le nom de la ligne Paris-Orléans, et le collectif Clermont-Paris, donc pour l'autre ligne, se mobilisent pour défendre ce service ferroviaire sur des axes structurants pour le massif central. Il faut rappeler que le choix de désenclaver l'Auvergne grâce aux autoroutes, c'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, eh bien tout cela a fait prendre un retard considérable justement aux investissements sur le train. À l'heure de la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique, il est inconcevable que 10 millions de Françaises et de Français en soient réduits à choisir la voiture plutôt que le train, ce qui vient de plus encombrer un peu plus les routes et autoroutes de la région parisienne. C'est valable également d'ailleurs pour le fret, explique à Olivier Bianchi, qui est maire socialiste de Clermont-Ferrand et là aussi fils de cheminot. Une délégation restreinte avait prévu au cours de cette journée de remettre au ministre un livre blanc dans lequel les collectifs formulent des demandes concrètes et urgentes pour moderniser et sécuriser les lignes. Eh bien, on n'attendait pas grand-chose, on n'a pas été déçus. Ce sont les mots de Fabien Bazin, le président du conseil départemental de la Nièvre. On nous a écoutés sans grande considération, puis on a repris comme si de rien n'était. Ce n'est pas seulement une affaire technique ou budgétaire, c'est l'avenir d'un territoire entier qui est en jeu. Nous avons demandé que le dossier soit transmis au président de la République, car il est clair que c'est à ce niveau que tout se joue. Et j'ai donc, tout à l'heure, je vous ai donné des mauvaises infos sur les références. C'est bien dans les colonnes de reporters que vous pourrez retrouver cet article dans son intégralité.
Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public.
Et puisqu'on parle de train, parlons aussi de voitures, et notamment des voitures électriques avec les aides de l'État pour acheter ces véhicules qui ont été divisées par deux entre 2024 et 2025. C'est une étude de UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, qui est publiée aujourd'hui et qui montre que le soutien financier donc pour acquérir un véhicule électrique est passé de 1,5 milliard d'euros en 2024 à 700 millions d'euros en 2025. Une chute, une dégringolade donc qui compromet sérieusement l'accessibilité pour les ménages, notamment les plus modestes, s'ils souhaitent acquérir des voitures électriques. C'est ce qu'explique l'association dans son communiqué de presse. Selon les objectifs de réduction des émissions de la France, la part des véhicules électriques dans le parc automobile total devrait passer normalement de 1,2 à 15% en 2030. C'est mal barré. Le prix d'achat, il est entre 12 à 45% plus cher un véhicule thermique. Il reste donc le principal obstacle pour une large partie de la population. C'est pourquoi UFC Que Choisir, de son côté, déplore la diminution des subventions à l'achat et demande de réserver le bonus écologique aux véhicules de moins de 1,9 tonnes. Elle plaide également pour la mise en œuvre du prêt à taux zéro prévu depuis la loi Climat et Résilience. Et on termine avec une autre brève des nouvelles des manifestations en Serbie où les étudiants ont bloqué hier la radio-télévision publique. Les étudiants, principal fer de lance de cette mobilisation qui existe depuis plusieurs mois et donc un mouvement de contestation contre le gouvernement, ont bloqué les accès aux locaux de la télévision et de la radio publique dans deux villes. C'était ce lundi 14 avril. À Belgrade, les entrées des bureaux du diffuseur public RTS, Radio-Télévision de Serbie, et un studio qui appartient au même groupe, et des locaux dans la ville de Novi Sad pour la radio-télévision de Vojvodine, ont été bloqués. La police était présente sur place, mais n'est pas intervenue. Les étudiants accusent notamment le diffuseur national, donc la télévision, et la radio, d'ignorer leurs mouvements et leurs manifestations. La chaîne publique travaille contre nous tous. C'est ce qu'ont écrit les étudiants sur Instagram. Ils ont planté des tentes devant les entrées de ces studios et ont promis de prolonger leur blocage. Depuis le début des manifestations qui secouent la Serbie, dans ce vaste mouvement de contestation contre la corruption suite à l'accident mortel de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier, les médias, en effet, décrivent ces étudiants comme des agents de l'étranger, payés par l'opposition, architectes d'un futur coup d'État. Les manifestations ont pourtant lieu presque quotidiennement, elles rassemblent parfois des centaines de milliers de participants dans les grandes villes. La pression exercée sur le gouvernement par les manifestations a conduit d'ailleurs à la démission du Premier ministre au mois de janvier et à l'effondrement du gouvernement, qui doit donc se reformer. Eh bien, en toute réponse, le président Vučić a alterné les appels au dialogue et les accusations donc selon lesquelles ses étudiants tentaient une révolution de couleur. Il fait référence aux mouvements de contestation qui ont conduit à la chute de certains dirigeants dans l'ex-espace soviétique. Il entretient des liens étroits avec Moscou, mais souhaiterait malgré tout faire adhérer son pays à l'Union européenne. Il n'est donc pas très populaire dans son pays, mais s'accroche au pouvoir. Hein, et Aleksandar Vučić, par exemple, vient de nommer au poste de Premier ministre. Il faut encore que ça soit voté, mais en tout cas, il a proposé Duro Macut, je ne sais pas comment on prononce. C'est un endocrinologue réputé, mais donc sans expérience politique. Et ce mardi 15 avril, à Belgrade, le Parlement commençait justement à examiner la proposition de nomination d'un nouveau gouvernement pour remplacer celui qui a été poussé à la démission suite aux manifestants. Dans le nouveau gouvernement, il pourrait y avoir comme ministre de l'Éducation Dejan Vukstankovic, qui est un commentateur habitué des chaînes de télé pro-gouvernementales et notamment connu pour avoir systématiquement critiqué le mouvement étudiant. Bon, vous l'aurez compris, en termes de, compromis, c'est pas gagné, c'est pas ouf comme stratégie, en tout cas pour calmer les ardeurs de cette population qui a vraiment envie que le président dégage. C'est la fin de ces nouvelles du monde. On se quitte en musique. Un petit hommage à Max Romeo, grande star et légende du reggae qui nous a quitté vendredi dernier à l'âge de 80 ans chez lui en Jamaïque. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Look at that, disciple out there. What you say, disciple out there? Oh yeah, war in a Babylon, tribal war in a Babylon. Disciple out there, what you say, disciple out there.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.